Nous approchons donc de la 14e édition du Festival international du film oriental de Genève, le FIFOG, qui donc se tiendra à Genève du 29 avril au 5 mai 2019. Donc là, on y arrive. Alors, bonjour Tahar Ouchi.
Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs de votre radio. Sympathique.
Merci. Alors, vous êtes le directeur artistique du festival. Alors, merci de nous recevoir maintenant, puisqu'on est quasiment à la veille du festival. Et donc, j'imagine qu'ici, à l'espace 99, d'où vous organisez le festival, vous êtes en plein labeur, en plein travail.
Absolument, on est en pleine ébullition.
Très bien. Alors, cette année, cette 14e édition, parmi ses singularités, et elles sont nombreuses, elle a un thème qui est le suivant, c'est l'éloge de la différence. Alors, voudriez-vous nous expliquer pourquoi ce thème-là, cette année-ci ?
Alors, c'est très simple. D'abord, partons du constat ou du principe qu'un festival n'est pas un simple alignement de films sans cohérence aucune. Le festival, pour nous, on le prend comme une réflexion. On part toujours à partir d'une pensée, d'une réflexion, d'une maxime ou d'un constat relatif à la réalité et on part pour la construction de ce thème. Alors, des années précédentes, on a travaillé sur le thème de l'amour, sur les minorités, sur la représentation du corps en Orient et en Occident. Nous aimons beaucoup ces regards croisés qui permettent un éclairage nouveau par rapport à des réalités ou des situations. Cette année, nous avons choisi l'éloge de la différence. D'abord, nous avons voulu une formulation poétique, parce qu'on aurait pu parler, comme les politiciens, parler de diversité ou de respect ou de racisme. Mais là, nous avons voulu être poétiques, nous avons choisi l'éloge de la différence pour donner de la puissance au thème. Alors, pourquoi l'éloge de la différence ? Nous sommes partis d'un constat que dans le monde aujourd'hui, il y a deux courants de pensée qui sont dominants. D'une part, nous avons la vision globalisante, la globalisation. On ne finit pas de nous dire que vous allez vivre avec un seul schéma de vie, avec une manière de vivre qui est commune à tout le monde. C'est un petit village, mais force est de constater que cette vision, justement, a des conséquences gravissimes sur l'équilibre des sociétés et des individus. D'ailleurs, c'est cette même vision qui a engendré la deuxième pensée, qui est celle des replis identitaires. Par peur, cherchant l'insécurité, l'être humain depuis la préhistoire a toujours cherché la sécurité, alors on se replie à l'intérieur et on essaie de vivre en autarcie, ce qui est quasiment impossible. Alors ce repli engendre d'autres problèmes, comme justement le rejet de l'autre, le racisme, les violences, l'extrémisme politique, et constatant donc les deux pensées engendrent des problèmes et on se dit comment contourner cela ou comment qu'est-ce qu'on peut proposer de différents. Alors, l'éloge de la différence vient justement faire l'éloge des singularités, des particularités, qui est dans l'ordre naturel des choses. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous singuliers et particuliers. Mais cela ne doit pas être une raison de se replier et de se fermer parce que la nature et les choses dans la nature sont interconnectées. Alors, transposer ce schéma sur la société, le respect de l'autre, la reconnaissance de la différence entraîne forcément, comme dans la nature, un équilibre, une prospérité, une paix, une richesse. Et nous, en fait, on n'a rien inventé parce que les films qu'on a rassemblés, les cinéastes, chacun à sa manière, plaide pour cette différence, plaide pour cette singularité. Le mérite du festival est de rassembler ces notes de finesse dans un monde de brut pour en faire une chorale cinématographique que les Genevoises et les Genevois vont entendre pendant une semaine.
Très bien, très bien. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Du coup, vous avez déjà répondu à plusieurs questions que j'allais vous poser, mais c'est très bien comme ça. Je voulais citer le très joli aphorisme que vous avez mis sur le site internet, ce qui me permet de donner tout de suite l'adresse du site, qui est donc www.fifog.com. Là, on retrouve effectivement le programme détaillé, puisqu'il est quand même bien nourri, donc on va effectivement pas tout égrener aujourd'hui, mais voilà, on invite les personnes qui écoutent ce podcast à se référer au site internet. Alors, voici l'aphorisme. Alors, je cite, « Faire l'éloge de la différence revient simplement à dire « Vivez avec et non contre les autres ». Le cinéma va loin dans cette évidence. Il nous permet d'accéder à l'amour, à l'amitié, à la connaissance, au savoir et au rêve. » Fin de citation. Et c'est donc le président d'honneur du festival, Tahar Benjelloun, écrivain bien connu, hein, que vous citez.
Absolument, c'est son texte qu'il a écrit spécialement pour cette édition. J'avais dit au préalable que, donc une fois qu'on a choisi le thème, donc tous les choix, tout le programme, toutes les notes du programme répondent à ce choix initial. Et à commencer par le choix d'un président d'honneur. On ne choisit pas un président d'honneur parce qu'il est célèbre, on ne choisit pas un président d'honneur parce que c'est une star. Non, on choisit un président d'honneur parce que sa pensée, ses écrits, son travail vont dans le sens. Et puis tout le monde connaît Tahar Benjelloun qui a écrit « Le racisme expliqué à ma fille ». Je me suis dit que pourquoi pas, il viendrait à Genève expliquer l'éloge aux Genevois et aux Genevois.
Eh bien, c'est une excellente idée, on salue. Alors, plus en général, on va venir, hein, même si vous l'avez déjà dit en filigrane, vous avez déjà parlé du rôle du festival, dont on rappelle qu'il est arrivé à sa 14e édition, mais plus en général, le rôle du cinéma dans une époque clairement tourmentée, dans les représentations, justement, que l'Occident, des fois, se fait de manière caricaturale de l'Orient, quel rôle a-t-il à jouer ?
Le cinéma est un puissant moyen de communication. C'est-à-dire, au-delà du cinéma, parce qu'aujourd'hui, on parle à travers l'histoire de genre dominant. Il fut un temps, c'était le pamphlet, après le roman, après la poésie. En fait, c'est le rôle de l'intellectuel. Le cinéma joue un rôle aujourd'hui primordial parce que nous sommes à l'ère de l'image. Nous sommes loin de l'imprimerie qui a fait justement le florilège de la littérature, nous sommes à l'image. Et donc l'audiovisuel en général vit ces moments de gloire. Cela aussi a été aidé notamment par la facilité de la consommation. Parce qu'avec les réseaux sociaux, les images se répandent très vite. Seulement, il y a un autre danger, c'est que la plupart des gens qui utilisent l'image ne sont pas, comment dire, formés à ce qu'on appelle la grammaire de l'image. Parfois, c'est des montages hasardeux, instinctifs, etc. Donc, le rôle d'un festival, c'est de sélectionner des gens qui ont des compétences à communiquer des messages. Ça, d'une part. Et d'autre part, pas n'importe quel message. Parce que le festival se veut un complément aux médias. Je prends un exemple, l'Algérie est sortie massivement dans les rues pour revendiquer plus de liberté et de démocratie. Les médias n'ont pas le temps de traiter en profondeur la chose parce qu'ils sont soumis à des urgences, à des conditions de travail qui ne sont pas les mêmes qu'un cinéaste, alors qu'un cinéaste prend parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans à observer, analyser, discuter avant d'écrire son scénario et de faire son film. Donc, le festival propose un regard artistique, serein, pointu, pertinent sur des phénomènes de société par des artistes. Et tout ça complète l'information qu'on diffuse à travers justement la profusion d'informations sur les réseaux sociaux et dans les médias classiques.
Alors, 83 films pour célébrer l'éloge de la différence. On va effectivement dire qu'il y a plusieurs thèmes. Mais avant ça, j'aurais voulu savoir si ça a été compliqué de sélectionner ces films-là. Est-ce qu'il a fallu faire un filtre? Est-ce qu'il a fallu décider ensemble de peut-être de prendre ce film-là plutôt que celui-ci, selon des thèmes ou pas? Comment ça s'est produit, cette sélection?
Alors, les premiers critères, hein, les deux premiers critères, comment dire, qui sont devenus presque des principes fondamentaux, c'est la qualité, dont je parlais tout à l'heure, la qualité du film, et le deuxième, c'est le thème. Je ne vais pas prendre un film qui parlerait uniquement sur la guerre si le thème n'est pas mis en valeur. Une fois que ces deux éléments sont respectés, on introduit d'autres éléments. Je prends par exemple la parité entre femmes et hommes. On tient absolument à ce qu'il y ait toujours une part, un espace pour les femmes dans le cadre du festival. On tient aussi à avoir une part importante pour la jeunesse parce que c'est de là que sort la nouveauté. La création, la nouveauté évolue et émerge dans la marge. Après, on a aussi d'autres éléments. Nous sommes à Genève, notre public est hétéroclite. On essaye d'avoir une représentation géographique. On ne montrera pas 40 films marocains et on ne montrerait pas un film égyptien. Donc on essaye de respecter un équilibre de telle sorte à ce qu'il y a une vision relativement globale de ces pays.
Alors, 16 films sur l'enfance, 12 films sur l'immigration, des films sur la sur les disparités sociales, sur les femmes, leur intégration dans la société, le handicap, les personnes âgées, des films sur la religion et la société, des films parlant de la communauté LGBT et plusieurs films sur la liberté. C'est donc du 29 avril au 5 mai 2019, c'est à Genève et dans les communes voisines.
Tout à fait. Depuis un certain temps, ça aussi c'est parti d'une réflexion qui est la suivante. Nous avons constaté que les nouvelles technologies ont bouleversé la consommation du film. Il fut un temps, il faut aller dans une salle de cinéma, vivre la magie de la salle de cinéma, faire une immersion et vivre une expérience collective et sortir pour prolonger la discussion. Avec le temps, on est amené à voir des films avant même la sortie dans les salles de cinéma par Netflix. Donc, on ne va pas jeter l'anathème sur le consommateur, sur le spectateur, et dire qu'il est bête ou qu'il est con. Non, nous essayons de nous positionner pour essayer d'aller, c'est à nous de faire l'effort pour aller le dynamiser et de l'intéresser. On essaie de rajouter des choses qu'il ne trouve pas chez lui, justement. Le premier pas est naturellement d'aller explorer d'autres espaces. On ne va pas s'enfermer dans notre tour d'ivoire de salle de cinéma et dire que nous sommes les meilleurs et que les gens ne viennent pas. Non, on va aller à la rencontre du public, dans les communes, dans les centres de réfugiés, dans des cafés, en France voisine, dans des musées, dans les écoles. On va parler de nous et de ce que nous proposons aux gens afin ne serait-ce que de savoir qu'il y a quelque chose d'autre, une autre vision, une autre manière de consommer un film, une autre manière de voir le monde.
Alors, effectivement, apprendre à se parler, c'est peut-être aussi apprendre à s'écouter, apprendre à se voir. C'est ce que vous allez proposer tout au long de ce festival. Alors, au film, s'ajoutent des tables rondes avec des invités. Voilà, ça a été compliqué, difficile d'organiser tout ceci.
Moi, j'ai toujours comparé la programmation. Après 14, enfin, durant ces 14 ans, je compare la programmation d'un festival à une dune de sable. Pour les connaisseurs du désert peuvent entrevoir tout de suite l'image. C'est que dans le désert, vous vous réveillez un matin, vous allez voir une superbe dune de sable et que vous allez admirer. Et si vous revenez l'après-midi, vous n'êtes pas sûr de la retrouver au même endroit. Le vent souffle. Et donc, quand on a affaire à des individus qui sont conditionnés par leurs conditions objectives, on ne peut jamais dire que nous allons tenir à 100% le programme. Cependant, l'ingéniosité de l'équipe organisatrice doit improviser, doit chercher des solutions parfois dans la minute qui suit le problème. Mais sur les 14 ans, on a pratiquement eu un réalisateur qui a raté un avion ou un réalisateur qui est malade mais on tient, les films sont là, il y aura quelqu'un qui va débattre avec le public. C'est faire preuve d'un magicien, de gymnaste, que de monter une programmation comme ça. Vous parliez de débat, il fallait négocier avec des Algériens qui sont en pleine révolution, avec tous les problèmes qui viennent, Ramadan qui est sacré, qui se pointe, pour faire venir aussi des personnes d'Israël, c'est pas évident. Aller aussi explorer des domaines qu'on ne connaît pas forcément, comme les LGBT, c'est aussi des risques qu'on prend. On aime prendre des risques. Parler au Salon du Livre sur l'impact des printemps arabes, une approche de la complexité, c'est aussi parler avec des partenaires, parler avec des intervenants, réfléchir pour trouver des formules pour présenter le thème. Mais tout ça, ça fait partie justement du travail de réflexion. Vous l'avez cité tout à l'heure d'une manière pertinente, que nous essayons de toucher toutes les tranches de la société qui, quelque part, deviennent peu audibles pour les amplifier, les rendre plus audibles et plus visibles.
Alors, on rappelle, hein, le site internet, c'est www.fifog.com, Fifog, F-I-F-O-G. Quelles ont été les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées dans l'organisation et dans le choix et dans les invitations concernant les intervenantes, les intervenants? Est-ce que c'est plutôt des questions de visa, des questions budgétaires? Comment ça s'est passé?
Alors, c'est tout ça, elles sont multiples. D'abord, bien sûr, il y a une histoire de budget, il faut absolument peser, s'opposer pour justement trouver une formule qui soit viable. Et après, il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas eu le visa. Il y a des gens qui ne viennent pas parce que ils n'ont pas trouvé de place d'avion parce que c'est complet. Il y a des gens qui veulent pas bousculer leur ramadan parce qu'on termine le 5 et le ramadan le lendemain, ils veulent pas, ça, parce que ça se prépare en famille, ils n'ont pas pu se libérer. Il y a des gens qui sont retenus par leur propre engagement dans la société. Je ne considère pas ça comme des problèmes, ce sont des aléas avec lesquels on doit justement négocier de telle sorte qu'à la fin, on a un programme ressemble à l'image première qu'on s'est faite au début.
Ouais. En tout cas, on peut dire que c'est un festival et un programme extrêmement dense, extrêmement varié, tout ça réuni sous ce thème que l'on a cité, l'éloge de la différence. Alors, revenons-en à ce thème. Selon vous, ces différences, est-ce qu'elles peuvent nourrir effectivement une curiosité, des échanges transversaux, horizontaux, ou est-ce que des fois ces différences, elles peuvent être également composées un risque, devenir un fossé éventuellement infranchissable?
Alors, il y a toujours bien sûr un effort à faire, parce que tout changement, toute proposition de changement peut entraîner des craintes, et justement le festival vient juste participer à simplifier les choses ou à aider à ce que l'on voit l'autre comme étant un ami et non pas un ennemi. Vous parliez tout à l'heure de préjugés. Oui, il y a des préjugés ici et il y a des préjugés là-bas. Alors que ici, on a des préjugés par rapport à ces pays que l'on considère, ils veulent tous venir migrer ici par exemple, qu'on a peur quand ça bouge dans un pays qu'on nous envahisse. C'est des pays où il n'y a pas de créativité, où la femme est dominée sans droit. Donc je ne dis pas qu'il n'y en a pas ça, mais on est réducteur. De l'autre côté aussi, il faut imaginer qu'ils voient la Suisse comme étant le repère de voyous, de potentats qui mettent l'argent qu'on leur vole là-bas. Et le festival vient rappeler l'interaction qui existe entre le Nord et le Sud. Je disais dans la conférence de presse, quand l'Orient tousse, on éternue. Et quand il y a une violence, elle arrive sous nos toits. Quand il y a un cri de colère en Orient, il assourdit nos oreilles. Donc, avec le festival, on vient corriger certains clichés pour dire que les gens ne veulent pas tous venir ici. Moi, j'en connais des gens qui sont venus pour une semaine et sont repartis au bout de 2 jours. Et dans le cadre du festival, on reçoit chaque année des invités, des stagiaires, des jeunes qui sont du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Sitôt le festival repart chez eux, ils ne veulent pas rester ici. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit encouragé, aidé, soutenu, parce que là-bas, ils sont harcelés, parce que leur liberté est menacée, parce que les moyens, on leur coupe les moyens. Ce sont des gens qui veulent juste construire leur avenir dans leur pays. Exemple, en Algérie, avant le 22 février, début des manifestations, chaque jour, la presse rapporte de jeunes candidats à l'immigration clandestine échoués en mer. Mais chaque jour, depuis le 22, curieusement, la presse ne rapporte aucun. Les jeunes ne veulent pas partir. Ils se battent sur place pour justement regagner leur liberté et leur dignité. Morale de l'histoire, les gens ne veulent pas migrer parce que ils sont à la recherche de quelque chose pour remplir leur ventre. Ils fuient l'oppression, ils fuient le manque de démocratie, ils fuient l'irrespect à leur dignité. Alors, si les pays d'Occident les aident à construire leur avenir, au lieu d'aider les voleurs qui viennent poser leur argent ici et ailleurs, on serait plus en paix. Vous me diriez que je tiens un discours politique, mais non, je tiens un discours critique. d'un film. Un critique, celui qui veut expliquer un film, celui qui veut rendre lisible un film, il doit absolument tenir compte du contexte politique et social de sa naissance. Depuis la naissance de la critique avec Sainte-Beuve jusqu'à Roland Barthes, les critiques ont insisté sur le poids de la société et du politique sur la production artistique. Ce que je suis en train de décrire aujourd'hui est nécessaire pour comprendre le film algérien de l'année prochaine, qui, je dirais que toutes les productions cinématographiques algériennes qui naîtront à partir du 22 février porteront le sceau de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est normal qu'on en parle comme des analystes et non pas comme des gens qui tiennent un discours politique.
Et c'est-à-dire que l'année prochaine, le programme, en tout cas le thème, commence déjà à surgir dans vos esprits, à l'organisation?
Non, il m'est arrivé que des années où j'ai deux thèmes dans la même année successifs. Je sais que le prochain... Et après, cette année, non, pour l'année prochaine, on n'a pas... Comment dire, on a des incertitudes déjà par rapport à la tenue du festival parce qu'on doit voir avec la ville de Genève. Vous savez qu'il nous a supprimé les 100 000 que la ville nous donne et il reste 60 000 que l'État nous attribue. Il s'agit de parler avec la ville pour qu'on puisse garder les 60 000 de l'État au moins. C'est une décision qu'on n'a pas comprise alors que justement il y a un besoin cruel par rapport aux cinéastes qui sont là-bas et par rapport aussi aux populations migrantes qui vivent ici, qui ont besoin d'un contact direct, rassurant, sécurisé avec le pays d'origine.
On peut dire que le festival est donc menacé pour son existence même?
Absolument, il est menacé. Si on n'arrive pas à trouver un compromis, il m'est difficile aujourd'hui d'envisager ou d'imaginer la suite, que toutes les éventualités sont possibles. Et ce qui serait dommage pour Genève.
Oui. Alors du coup, on lance encore plus cet appel à toutes les personnes qui écoutent ce podcast de se rendre au festival. On l'a dit, le site internet c'est www.fifoc.com. Le festival commence ces prochains jours, alors vous êtes prêts?
Tout à fait. En fait, le festival, comme je vous avais dit, comme on va à la rencontre du public, le festival a déjà commencé d'une manière timide. On a eu des projections, par exemple, à Saint-Genis avec une association Twiza du Rif. On a présenté un film sur la migration et du coup, on a eu un débat sur ce qui se passe au Rif du Marocain. Vous savez que le Maroc s'est soulevé pour des revendications pour améliorer leur quotidien. La répression a été la réponse qui a été donnée par le Marsan. C'était une occasion justement pour discuter avec des universitaires et le réalisateur qui a fait le film sur la migration en général. Demain, ce sera avec une autre association qui s'appelle l'association des Berbères du Grand Genève et avec eux, on va fêter le 39e anniversaire du printemps berbère de 1980. Un petit mot, quelques mots pour justement expliquer à vos auditeurs ce qui s'est passé en 1980. L'Algérie a eu son indépendance en 62, le premier coup d'État était venu en 63, une tentative d'un autre coup d'État en 68, et après ce coup d'État, Boumediene à l'époque, Ouadi Boumediene, qui était le président, aidé par les Russes, a pu mater tout le monde, et donc il a construit un pays... à travers trois principes, socialisme, arabité et islamité. Tout ce qui est en dehors de ça est considéré comme étant une atteinte à la sûreté de l'État. Les Berbères, qui sont nombreux en Algérie, revendiquaient le droit à parler leur langue, à vivre leur culture. La réponse était toujours un niet. En 1980, des jeunes universitaires ont justement pris leur courage à deux mains et ont manifesté à Tizi Ouzou, ville capitale de la Kabylie. La réponse de l'État est aussi une répression féroce. Cela a énervé les montagnards et c'était un raz-de-marée. Le massacre a été évité de justesse, mais depuis cette date, les Berbères, pas seulement d'ailleurs en Algérie, même ceux qui sont au Maroc, en Libye, en Espagne, en Égypte, prennent cette date comme étant le symbole de la revendication culturel de prime abord, mais qui est à fond politique, parce qu'on demande c'est plus de liberté et plus de démocratie. Donc 39e anniversaire, c'est demain, on projette un film sur le football, un club mythique de la région, parce qu'à défaut d'avoir un parti politique qui, avec lequel on peut lutter, et les gens ont misé tout sur un club de foot qui est devenu plusieurs fois champion d'Afrique, plusieurs fois il a dominé le championnat d'Algérie, parce que derrière il y a un soubassement politique.
Et puis c'est vrai que, d'ailleurs par expérience, des pays comme la Tunisie, j'ai souvenir de voir des stades comme lieu de revendication également, tout d'un coup. Des lieux de contestation également.
Absolument. C'est-à-dire que c'est déjà, même si on remonte jusqu'à l'Antiquité, les empereurs romains construisaient justement des arènes pour divertir le public. Et éventuellement pour amoindrir la parole des contestataires. Dans ces pays d'Afrique du Nord, c'est la même chose. Sauf que, à la différence de l'Antiquité, dans ces stades sont nées des chansons contestataires porteuses d'un projet politique et social. Les Algériens sont sortis le 22 avec une chanson que tout le monde chantait. C'était, on l'appelle la Casa Moradia, la Casa del Moradia, qui est à la base une série sur Netflix qui mettait en scène une famille de mafieux en train de magouiller, en train de s'entretuer et de voler. Alors, le génie, c'est qu'ils ont transposé le contenu de cette série sur la réalité algérienne. Ils ont fait Casa del Moradia, la série Netflix, la Casa del Pepo, je crois.
La
Casa del Papel.
C'est bien, en plus, il y a de l'humour derrière.
Voilà. Et eux, ils l'ont appelé la Casa del Moradia, sachant que le Moradia, c'est le siège de la présidence, comme l'Élysée.
D'accord,
l'équivalent. Ou le palais fédéral de Berne.
très bien. Alors, est-ce qu'on a encore le temps pour deux questions?
Bien sûr,
alors,
avec plaisir.
J'avais encore une question concernant, effectivement, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, ces fantasmes, ces informations, ces fake news, hein, concernant les flux migratoires. On a entendu des choses hallucinantes, on entend des choses hallucinantes dans les masses médias, théorie du remplacement. Comment est-ce que vous expliquez qu'on en arrive à ce point-là, à des propagations médiatiques irrationnelles? Et est-ce que le festival contient également justement le rôle de clarifier les situations, les positions?
Quand la propagande est actionnée, l'être humain cède. Il y a maintenant, même avant d'actionner une propagande, on procède même à l'analyse des comportements des individus par pays. On installe une cellule même au sein des services de renseignement pour observer le comportement d'une société et des individus. Ensuite, on lui sert des choses pour le détourner. Effectivement, les fake news servent à déconcentrer la personne, à l'éloigner de l'essentiel. Vous allez vous retrouver à discuter sur un sujet dont la finalité n'a aucune incidence sur votre vie. Et pendant que vous êtes en train de disserter et de pérorer, vous êtes en train de passer outre des questions déterminantes pour votre vie. Et c'est l'une des perversions des réseaux sociaux, parce que au début, on a crié victoire parce qu'on est loin des propagandes à la Goebbels ou à la Staline, où on peut tenir les gens par l'ignorance, par la rétention d'informations. C'est la théorie de rétention d'informations et la remplacer par une information adéquate et qui arrange. Mais aujourd'hui, on assiste à la profusion d'informations. Cette profusion d'informations nous met dans une situation délicate parce que notre esprit n'est pas capable d'assimiler autant d'informations contradictoires. Vous avez besoin de plus de temps pour décerner les choses. Et d'où l'intérêt des intellectuels universitaires, des festivals ou des gens qui travaillent à long terme, qui arrivent avec l'expérience. Vous pouvez tout de suite dire ça n'a pas de crédit, ça a du crédit. Une chose élémentaire que les gens ne font pas sur le web, ils viennent, ils vous disent telle chose s'est passée, mais vous dites, mais qui y a dit cela? Et vous citez des sites internet, mais qui ne sont pas crédibles. Alors, moi, personnellement, quand je veux vérifier une information, je cherche un site crédible. Si je vais à l'université de Genève et que je trouve une information, je suis rassuré, je peux l'amplifier et dire ça s'approche du vrai. Mais si c'est n'importe quel site internet qui diffuse cela, il faut faire attention parce que ça fait partie de la propagande, voire même de l'ignorance, tout simplement.
Donc on peut dire qu'effectivement, ce système d'infobésité, hein, de surplus d'informations et dans un temps très rapide également, on voit que les rythmes sont extrêmement rapides, permet de neutraliser d'une certaine manière des réflexions critiques autour des aspirations des humains.
Absolument, absolument. C'est voire même ce qui est censé libérer la personne, amplifier notre liberté, se retrouve à nous réduire notre liberté, à réduire notre pensée. Même les magiciens, ceux qui jouent, comment dire, sur l'esprit humain travaillent dans ce sens. Il y a Bourdieu qui a même mis en place, sociologue français qui a travaillé d'ailleurs beaucoup, sa thèse a été faite sur l'Algérie, sa théorie montrait pour cacher en référence à son fameux livre sur la télévision, on vous montre pour vous cacher. C'est normal, votre esprit ne peut pas avoir, à moins que vous soyez informé réellement. Mais sinon, on peut vous donner des choses et que vous allez suivre comme un feuilleton qui va prendre le rythme, qui va déterminer le rythme de votre vie. Et les choses essentielles, on ne va pas vous les montrer. Et en plus, on va vous faire croire que vous êtes intelligent.
Absolument. Donc là, effectivement, Bourdieu le disait lui-même, hein, c'est un mécanisme complet, hein, avec des arcanes dans lesquels on se perd. Alors, deux choses pour en terminer. J'aurais voulu que vous me disiez deux, trois éléments du festival au programme du festival, que vous auriez envie de mettre en valeur. Mais avant cela, vous avez le temps d'y penser. Selon vous, est-ce que quelque chose est en train de s'inventer en Algérie en ce moment?
Oui, je répondrai par la dernière question. Oui, incontestablement, quelque chose est en train de se dérouler en Algérie. Les gens sont arrivés à un point où il n'est plus possible de se taire. C'est-à-dire, à ce stade, quand un gouvernement vient vous présenter un cadre comme président, candidat à la présidence, et à qui on va offrir un cadre sur scène, devant des télévisions du monde, alors que le monsieur qui est sur un cadre, on ne sait même pas s'il est vivant. Alors vous êtes sur une ligne où vous vous révoltez, où vous sombrez dans l'esclavage. Et les Algériens ont choisi de se révolter. Ce qui est étonnant, c'est le pacifisme avec lequel ils se sont manifestés, le civisme. Parce que pendant 20 ans, on leur dit, vous vous révoltez, vous allez retourner aux années de braise, les années noires de 92. Et là, ça a été possible parce que la génération a changé. La plupart de ces gens, de ces jeunes, n'ont pas connu cette période. Donc cela a aidé. Et il y a aussi le fait que les jeunes n'ont aucune perspective. Aucune perspective d'avenir. Donc forcément, il n'y a pas autre chose à faire que de se révolter. Et c'était joli parce que les Algériens l'ont appelé la révolution du sourire. Et certaines presses se sont empressées de l'appeler Hirak, déjà lui donner un nom arabe, alors que la majorité des gens qui se soulèvent disent que ne sont pas uniquement arabes. On est pénétré par la culture arabe, mais ne sont pas arabe. Cela veut dire quoi de dire je ne suis pas arabe? C'est que je suis en train de remettre le principe fondamental de l'État algérien qui dit nous sommes arabes. On revendique la liberté aussi, on remet en cause la sauvagerie du capitalisme qui a succédé au socialisme. Parce qu'on était socialiste, on est passé à du capitalisme sauvage. Donc le deuxième élément fondamental de l'État est remis en cause. Le troisième, c'est qu'on dit, vous n'allez pas nous gouverner parce que vous avez libéré ce pays. La légitimité historique fondamentale dans l'État algérien est battue en brèche. Et le troisième, même l'islam, qui est quelque chose de sacré, est touché. Quand vous voyez ce président qui a construit une énorme mosquée pour la laisser à la postérité, alors que lui, quand il soigne, il vient en Suisse. Les Algériens sur les réseaux sociaux ont proposé de transformer la mosquée en hôpital, ce qui est révolutionnaire dans la pensée. Et ils ont dit, il nous a privés de nos rêves, on le privera de son rêve. C'est-à-dire que les éléments fondamentaux de l'État algérien sont touchés, contestés, et c'est là qu'on parle de dégagisme ou de changement de système. Ce n'est pas du rafistolage. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les dirigeants, ceux qui tiennent le pouvoir, proposent des petites solutions qui ne sont pas satisfaites. Alors on vous parle, les Algériens manifestent encore pour qu'on les respecte dans leur dignité, on respecte leur liberté. Et cela va teindre toutes les productions intellectuelles, pas seulement cinématographiques, mais musicales, artistiques, cinématographiques de demain.
Dernière petite précision, qui sont ces personnes justement qui sont en ce moment dans la rue, qui se révoltent? Y a-t-il également, y a-t-il une très large variété de la population, y compris des populations berbères, des populations kabyles?
Oui, tout à fait. Quand on dit berbère, ça englobe les kabyles, les chaouis, les mozabites, les chdouhs, etc. Donc c'est toute l'Algérie qui est sortie. Chacun avec sa sensibilité. Il y a celui qui se revendique berbère, il y a celui qui se revendique arabe, celui qui se revendique socialiste, celui qui se revendique capitaliste, mais ils sont tous d'accord sur quelque chose, c'est cela n'est pas possible de continuer à vivre comme ça avec un État mafieux. Mais c'est vraiment gouverné par des gens qui ne sont là que pour casser l'économie nationale, qui ne sont là que pour détruire un pays. Leurs comptes bancaires sont en Espagne, leurs biens immobiliers sont à Paris, leur argent est à Genève. Et ce qui est encore déboussolant, ce qui est quand même perturbant, c'est que ces pays qui leur servent de repère, comment peuvent-ils penser que ces gens qui sont en train de créer des problèmes, pas seulement là-bas, c'est que ces problèmes qui sont créés vont arriver ici. Si l'Algérie sombre, le Maroc va sombrer avec, parce qu'il a les mêmes problèmes. La Tunisie va être encore. Et donc nous avons 100 millions de Maghrébins candidats à l'immigration. Alors qu'eux, ils ne voulaient que vivre chez eux, qu'on ne leur pille pas leur richesse. Ils sont là pour négocier, pour leur richesse, et voir comment la richesse peut... La prospérité, la richesse peut migrer d'un pays à un autre. Ils sont conscients que c'est dans justement la coopération, le respect de l'autre, que l'on puisse bâtir une Méditerranée équilibrée, prospère, pacifique.
Merci beaucoup, Tahaouchi. Alors, avant d'arriver à cette dernière question concernant ces quelques suggestions concernant le programme du festival, on va le rappeler, donc le festival... qui a donc déjà commencé, on l'a dit, aura lieu du 29 avril au 5 mai 2019 à Genève et dans ses communes, donc Vernier, Versoix, Pressinge, Carouge. Le site internet sur lequel on trouve le programme au complet, c'est www.fifub.com. Alors, concernant justement le programme, qu'est-ce que vous nous suggéreriez? Je sais qu'il y a toute cette qualité, mais voilà, y aurait-il deux, trois petites choses que vous auriez envie de mettre en avant?
Alors, c'est vrai que la question ouvre le débat pour vous exposer tout le programme, mais je vais reformuler avec ta permission ta question, et je voudrais prendre ta question comme quelque chose qui m'a touché moi personnellement, pas en tant que critique et pas en tant que directeur artistique. Alors, donc, moi, les films qui ont touché ma sensibilité, autre mesure, je voulais dire, il y a quatre films. Il y a le film d'ouverture qui s'appelle Good Morning de Bahij Hujaij, qui est un Libanais. C'est un film complexe, dense, riche, simple et drôle. Déjà, nous avons des éléments parfaits pour un film d'ouverture. Et mais pas seulement. Le choix du film d'ouverture n'est pas fortuit. Il répond justement à une exigence qui a été posée par le thème. Le Liban est un petit pays, c'est le plus petit pays dit arabe. Et il y a plus de 19 confessions. Et il est traversé par des sensibilités multiples. Et c'est des gens qui vivent depuis après la guerre, bien sûr, ça fait plusieurs années, et qui vivent ensemble dans un équilibre. Et c'est le pays où il y a le plus de créativité. Parce que justement, chacun respecte la liberté de l'autre.
Notamment une constitution qui organise.
Voilà. Il faut un président chrétien et premier ministre musulman. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi, Éloge de la différence, un exemple de terrain qui montre que si on se respecte, vous imaginez Hezbollah, des gens de Hezbollah faire alliance avec des maronites, mm-hmm. qui sont des chrétiens.
Des chrétiens, ouais. Des druzes qui parlent avec des sunnites.
Voilà. Et c'est ça qui assure l'équilibre. Mm-hmm. Le deuxième film, ça s'appelle L'homme et la tombe. C'est un film syrien de Joud Saïd. Saïd qui est habitué au festival, mais c'est un film qui que je trouve touchant. Ça parle d'un homme, un acteur, un comédien qui reçoit un téléphone de sa famille qui est très loin pour lui dire que un cousin est mort dans la guerre et il devait aller chercher le corps pour le ramener au village. Donc il y a la famille qui attend le corps et lui est avec le cercueil qui circule dans la ville. Il a loué des gens pour le transporter en même temps qu'il gère ses affaires. C'est assez c'est du Kusturica. Le troisième, ça s'appelle Jusqu'à la fin des temps, de Yasmin Chouir, une jeune Algérienne qui a fait un film justement qui est révélateur de la société algérienne et qui est quelque part un prélude de ce qui c'est passé le 22. Quand on voit justement ce film, a posteriori, on ne s'étonne pas de ce qui s'est passé après. Et en plus, avec une sensibilité, avec un humour et une fraîcheur touchante. Le dernier, c'est Burnout de Nordin Lahmari, dont j'aime bien le cinéma parce que c'est un réalisateur marocain qui fait du cinéma sans complexe. Il ne tient pas à ce qu'il fasse un film qui peut plaire à l'Occident ou à ses concitoyens. Il aborde des sujets sans concession et avec des références cinématographiques. Parfois, dans son film, Burnout, il peut vous faire des références à Fast Furious, il peut faire à du Scorsese. Et c'est un film urbain. Et c'est un film aussi qui... je dirais qu'il est révélateur de la dépression qui s'abat sur le Maroc. Le burn-out, c'est une manière de dire là, c'est la société est en train de déprimer, faites quelque chose. Et bien sûr, avec tout le dispositif cinématographique attrayant qu'il a mis en place.
D'accord. Eh bien, merci. On se réjouit de découvrir tout ceci. On l'a dit, du 29 avril au 5 mai à Genève et dans les communes voisines, contiguës. Taharouchi, merci beaucoup, directeur artistique du festival. C'est la 14e édition, on en souhaite encore plein derrière ça. Et j'espère qu'effectivement, ces problèmes que vous rencontrez actuellement en termes de financement du festival eh bien, pourront être résolus et que effectivement, vos partenaires pourront découvrir l'importance de ce festival-là et du coup peut-être changer de position.
Nous continuons à travailler comme si, de rien n'était. Pour paraphraser un écrivain algérien qui s'appelle Kateb Yassine, chantre figure de proue de la littérature de décolonisation, qui disait « C'est au moment où vous vous sentez affaibli que vous devez redoubler de férocité. » Donc nous faisons tout pour que nous puissions exister, parce que ce sont des choses qui sont bien pour Genève, pour nous déjà, et puis pour le public et pour le réalisateur. Et je te remercie pour m'avoir donné la parole, et tu sais bien que comme nous sommes très généreux en Orient, on aime bien offrir, alors on peut offrir 2 billets à vos auditeurs, mais on va mettre une petite condition, on va poser une question.
Mmh, allons-y.
on va offrir... Alors, 4 places, et je vais poser 2 questions. Quelle est, la première, hein, quel est le président ou la présidente d'honneur de la 10e édition du Festival international des films orientaux de Genève? Vous aurez droit, si vous répondez à cette question, enfin les premiers auront droit à 2 billets. Deuxième question, quand est-ce passe le film Burnout?
Donc, à cette édition.
À cette édition, oui. Ouais. Il passe dans le cadre du festival, ouais. Et la personne va nous dire
la date et le lieu
et de nous poster sur... et de diffuser l'information sur... faire la capture d'écran de ce film, qu'il fasse une publication sur son Facebook et nous envoie le lien. Ouais. Le premier qui arrive à nous envoyer ça, il aura ces deux places, un film de son choix.
Ok. Ouais. Et à quelle adresse est-ce qu'on envoie, est-ce que les personnes enverront aussi?
C'est sur notre, site internet, notre page Facebook.
Ah, sur la page Facebook directement.
Directement.
D'accord. C'est bien noté. Merci
voilà.
beaucoup.
Merci.
Et alors, bon courage pour le début de ce festival.
Merci beaucoup.